오늘 우리 영혼에게 주시는 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans Jean 15, 1 à 10.
10절의 말씀을 교독합니다. 내가 참 포도나무요
Moi je suis le vrai cèpe et mon père le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits est le tranche. Et tout serment qui porte des fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondé. Vous êtes émondé à cause de la parole que vous avez annoncée. Demeurez en moi comme en vous, de même que le serment ne peut de lui-même porter des fruits. S'il demeure sur le cèpe, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cèpe, vous le serment. Celui qui demeure en moi, comme moi, en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté en dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci et que vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Prions pour voir écouter la voix du Saint-Esprit via l'évêque Dongim. Prions pour que nos âmes écoutent la parole de Dieu. Prions.
하나님 우리 아버지 오늘도 하나님의 말씀을 듣습니다. 진리의 말씀 생명의 말씀을 듣습니다. 그 말씀 한 말씀 한 말씀이 우리의 영혼에 큰 주시옵소서. 이 예배를 우리 하나님이 주원하여 주시고 영광 받는 예배가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 도와주시옵소서.
하나님 아버지 거룩한 성의를
De nous a donné le commandement de l'observation des jours saints. Merci de nous avoir permis d'obéir. Donne ta grâce à nos âmes, je prie en nom de Jésus. Demeurez dans l'amour de Jésus. Écoutez bien la parole d'aujourd'hui, ok? Demeurez dans l'amour de Jésus. Lisons le résumé du serment d'aujourd'hui. Amour, comme il a aimé le monde, il y a accordé sa grâce. Il a versé son propre sang. Et les hommes, il a fait en sorte que les hommes puissent le voir. Est-ce que vous avez le sang de Dieu? La foi nous permet de voir ce sang. Quiconque voit ce sang se libère du péché et obtient la justification. Il ne faut pas chercher à être justifié par les actes, mais il faut être justifié seulement par la foi pour pouvoir vivre. Le juste manifeste la nature du juste, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu et sa grâce. L'amour consiste à abandonner la vie pour les brebis. Nous devons aimer les uns les autres en abandonnant notre vie. Le vrai amour, c'est abandonner l'honneur, l'argent, le corps, le cœur, même la vie. Celui qui n'a pas d'amour ne peut pas entrer en Jésus. Seul celui qui aime peut entrer en Jésus pour vivre éternellement. Aimons les uns les autres. Les hommes de religion ne peuvent pas aimer. Seul l'homme du Saint-Esprit peut aimer. Nous sommes hommes du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit entre en nous pour pouvoir agir. Il faut être rempli des dons du Saint-Esprit pour être dans la foi. Quoi qu'on nous dise, il faut être ainsi. L'amour de Dieu doit remplir nos âmes. Dieu est amour. Dieu aime son fils. Les parents de ce monde aiment vraiment leurs enfants. Hein. Il n'y a pas raison pour laquelle on cherche à l'expliquer cet amour. Parce que l'amour des parents pour leurs enfants est notamment totalement naturel. Par exemple, les femmes deviennent mères. Avant de se marier, les femmes avaient beaucoup de rêves et elles veulent les réaliser. Mais après le mariage, elles obtiennent des enfants et pour lesquels elles se sacrifient totalement Elle se dédie à leurs enfants totalement, même par exemple, même si elle veut quitter la maison, elle ne peut pas le faire à cause de leurs enfants. Même si elles veulent mourir, elle ne peut pas le faire à cause de leurs enfants parce que l'enfant est plus grand qu'elle-même. Mais Dieu est amour, alors? Alors, Dieu est amour. La justice constitue la base de son trône. Alors, notre Dieu est le Dieu de la justice. C'est la raison pour laquelle le péché est entré dans le monde parce que les hommes ne sont pas, n'étaient pas susceptibles d'observer la parole de Dieu qui constitue sa justice. Selon sa justice, Dieu ne peut pas tolérer ces hommes qui sont devenus pécheurs. Il ne peut que faire périr ces hommes pécheurs, comme il l'a fait pour les Néphilim. Mais notre Dieu, le Père, a décidé de les sauver parce qu'il est amour. C'est ainsi que Dieu a deux côtés, amour et justice. Voilà, c'est ainsi que le Père et la Mère constituent ces deux côtés de Dieu. Alors, le Père aime aussi ses enfants et la Mère aime ses enfants. Mais le Père est responsable de la justice, tandis que la Mère symbolise l'amour. Donc, sans les parents, personne ne peut pas survivre. Alors, pour notre Dieu le Père, l'amour constitue le cœur de Dieu. Le Fils de Dieu était dans le sein de Dieu le Père. Et Dieu le Père a fait sortir son Fils qui était dans son sein. Et en fait, l'homme, le corps humain est constitué de nombreux organismes importants. Si un seul organisme est paralysé, tout le corps meurt. Donc, chaque organisme est très important. Alors Dieu le Père a envoyé son Fils qui pouvait être comparé à son cœur. Dans Jean 15, l'évangile de Jean 15, 1 à 10, que nous avons lu, il y a un message que Dieu veut nous délivrer. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, il y a l'explication du tableau de sa volonté. Jean 15 contient la parabole de la vigne. En fait, il y a donc cette parabole dans ce texte. C'est ainsi que Dieu a utilisé les paraboles de la vigne. Alors, Jésus-Christ a parlé seulement en parabole lorsqu'il était sur cette terre. Après la venue du Saint-Esprit, il a ainsi divulgué la vérité. Mais qu'est-ce que c'est la parabole? Les paraboles, c'est quelque chose de simple. C'est ce que les gens pensent, mais il faut faire attention à cela. Vous avez déjà vu des vignes, n'est-ce pas? Donc, dans ce monde, il y a un principe de la nature. Alors, on écoute. Donc, les paraboles, ils sont basés en fait sur le principe de la nature. Jean 15 est une partie très importante de l'évangile de Jean. Quel est le cœur de ce texte? Quel est le contenu central de ce texte? Lorsque vous mangez un fruit, il y a des semences dans ce fruit. De la même manière, il y a donc des cœurs dans la parole de Dieu. Alors, Jean 15, il y a une parabole concernant la vigne. Et cette parole est très importante et comme une semence qui constitue le cœur des fruits. Jésus-Christ ne pouvait pas parler la vérité à ses disciples parce que ces derniers ne pouvaient pas la supporter. Et pour pouvoir la supporter, il fallait être sans péché et il faut être rendu à la vie au niveau de l'esprit. Si nos esprits sont morts, et si nous avons encore des péchés, la vérité ne peut pas entrer en nous. C'est la raison pour laquelle les disciples de Jésus ne pouvaient pas supporter la vérité avant que Jésus meure. Alors Jésus a été ressuscité trois jours après sa mort et il a renvoyé le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, les disciples de Jésus ont commencé à recevoir la vérité. Il ne suffit pas d'avoir les oreilles ouvertes pour écouter la vérité. Il est dit dans la Bible que vous écoutiez la voix du Saint-Esprit qui s'adresse aux églises. Cela signifie qu'il faut absolument recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir recevoir la vérité. Même si nous écoutons le même sermon, une partie des gens ne peuvent pas écouter la vérité. Ils ne sont pas capables de comprendre la vérité. C'est pourquoi les disciples de Jésus lui ont demandé « Pourquoi vous ne parlez pas de la vérité du royaume des cieux ?» Alors Jésus leur a dit « Vous n'êtes pas autorisés à écouter la vérité parce que seule la vérité peut sauver les âmes. » Mais Jésus n'était pas encore chargé des péchés des hommes. Il n'est pas encore racheté les péchés des hommes. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas parler de la vérité à ses disciples qui n'étaient pas encore susceptibles de la supporter. Il fallait que l'esprit de la vérité demeure en eux pour qu'ils puissent comprendre la parole de la vérité. C'est pour l'aider dans Jean 15. Alors, Dieu est le Dieu d'amour et le Dieu de la justice. Il a défendu aux hommes de manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. En fait, le père est très strict et sévère. C'est pour laquelle la mère doit s'occuper de ses enfants pour que ceux-ci soient protégés contre son père sévère. De la même manière, notre Dieu est l'amour, est le Dieu de l'amour et le Dieu de la justice. Il faut que la justice de Dieu soit atténué par l'amour. Regardez Jean 15. Jean 15, 26 à 26. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vus et ils ont haï moi et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie, ils m'ont haï sans cause. Qu'on sera venu le consolateur que je vois j'envers de la part du Père. L'esprit de la vérité qui provient du Père, il rendra témoignage.
Aujourd'hui,
Les non-chrétiens ne critiquent pas Dieu. Puisque vous me connaissez, vous savez ce que c'est le péché. Les gens de ce monde ne connaissent pas le péché. C'est la raison pour laquelle ils ne croient pas en Jésus. Mais nous savons très bien que Jésus est mort à notre place pour nous pardonner. Pourquoi Jésus est mort? Parce que nous avons des péchés. Alors, pour nous pardonner, pour pardonner nos péchés, il est mort, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que les gens disent? Ils ne connaissent pas bien Jésus parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le péché. Mais nous savons très bien la raison pour laquelle Jésus est mort. Il s'est chargé de nos péchés. C'est pourquoi il devait mourir à notre place. À partir de ce moment-là, celui qui connaît Jésus connaît le péché. Alors maintenant, je ne parle pas des péchés commis par nos actes, par nos pensées. Maintenant, je parle des péchés commis contre Dieu lui-même. C'est un péché satanique dont je parle. C'est pourquoi Jésus a dit, eux, ils haïssent Dieu. Mais c'est comme ce qui est écrit dans la loi, il me haïsse sans genèse particulière. Jean 15, c'est... Jean 15 parle de la loi et de l'amour. Il faut que nous connaissions donc bien Jésus. Il y a des révélations naturelles qui nous permettent de comprendre Jésus d'une manière approximative. Mais maintenant, je ne parle pas de la révélation naturelle. Il faut qu'on soit clair en ce qui concerne le tableau de la volonté de Dieu. Dieu est le vigneron. Alors le vigneron a semé son fils sur cette terre. Et il est dit dans Jean 15, vous êtes des sarments. Alors les sarments existent pour pouvoir porter des fruits. Et seulement par le Saint-Esprit, on veut être fructueux. Alors si on ne porte pas des fruits du Saint-Esprit, et on ne peut pas donc être fructueux, alors il y a donc une relation entre la vigne, le vigneron, et les sarments et les fruits. Alors, le Dieu le Père, qui est le vigneron, a semé son fils sur cette terre. Et alors, les serments doivent donner du fruit. Alors, il s'agit donc de l'opération du Saint-Esprit. Donc, il est dit ici un ordre établi par Dieu le Père dans Jean 15. Ensuite, on peut comprendre les attentes de Dieu le Père qui ont semé la vigne sur cette terre. Et le vigneron veut porter des fruits. Vous êtes des serments, les serments doivent donner des fruits. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, et le Père va retrancher ces serments de cet arbre. Par exemple, il y a 10 vierges qui attendent leur époux. 5 ont entré, sont entrées dans la fête des noces, mais 5 autres ne pouvaient pas y entrer. Toute personne qui travaille ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Deux personnes dorment ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Et alors, donc, il y a quelqu'un qui a reçu un seul talent, mais il n'a pas donné de fruits. À ce moment-là, il sera chassé dehors. C'est la parole de Dieu qui est notamment claire. Il ne faut pas que nous soyons trop laxistes concernant la parole de Dieu qui est exprimée en parabole. Alors parce qu'en fait, Dieu nous a parlé en parabole parfois parce que nous ne pouvions pas supporter la vérité avant la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a cherché à nous faire comprendre ceci, la vérité et les paraboles. Quel est l'objectif de la vigne? La vigne a pour objectif de donner du fruit. C'est pourquoi la vigne qui est un arbre demande à ses serments de donner des fruits. Donc vous, alors portez des fruits. Si vous ne pouvez pas être fructueux, vous allez vous assécher. Automatiquement, ensuite vous serez brûlé. Celui qui ne donne pas de fruits, sera retranché. Comme Dieu le Père même, je vous aime aussi, alors demeurez dans mon amour, recevez mon amour, c'est ce que Jésus nous a dit. Sinon, vous deviendrez pécheur. Je vous le dis, parce que je suis devant vous. Alors, vous ne pouvez pas prétexter que vous êtes en péché. Celui qui croit en moi est sans péché. Mais si vous ne croyez pas en moi, vous êtes déjà pécheur. Parce que ne pas croire, c'est déjà un péché. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous êtes sans péché. Si vous ne croyez pas en moi, le péché vous maudit et vous fait mourir, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus nous a déjà dit. Le péché ne cesse de faire mourir et nous faire périr parce que le péché nous amène finalement à l'enfer. Donc, voilà, ceci concerne tous ceux qui sont dans la loi. Qu'est-ce que la loi? La loi ne reconnaît pas la grâce de Dieu. La grâce condamne. C'est ça sa fonction. C'est pourquoi la loi proteste contre la grâce de Dieu. La semaine dernière, nous avons entendu un sermon dans lequel je vous ai dit l'importance de la grâce de Dieu qui nous permet de résister à la loi. Donc, alors je parle maintenant de l'amour de Dieu et je parle aussi de sa justice. Donc, il y a l'amour de Dieu et l'autre côté, la justice de Dieu. C'est deux choses coexistent. Et en fait, devant la justice de Dieu, on ne peut pas subsister. C'est pourquoi il faut vaincre la loi en demeurant dans l'amour de Dieu, parce que la loi ne nous permet pas d'être fructueux. La loi ne nous permet pas de donner des fruits. Donc, si on est dans la loi, on ne peut pas être fructueux. Qu'est-ce que c'est le travail de la loi? La loi condamne. Et parce que la loi même est un arbre mort qui condamne tout simplement, qui maudit aussi et qui juge, ensuite qui punit parce que c'est ça sa fonction, c'est ça sa raison d'être. C'est pourquoi la loi ne peut pas nous permettre d'être fructueux. Les pharisiens qui étaient dans la loi ne pouvaient pas donner des fruits. C'est pourquoi je leur ai dit, vous les malheureux pharisiens, vous, les pharisiens qui sont comme des sépulcres blanchis, c'est ainsi que Jésus a attaqué sévèrement les pharisiens qui étaient dans la loi. Pour pouvoir surmonter la loi, il faut donc écouter sa parole, sinon on ne peut que périr. Alors, Jésus est apparu dans le monde. Avant son apparition, voilà, il y a beaucoup de morts, n'est-ce pas, comme vous le savez très bien, parce que les hommes ne sont destinés à mourir au niveau du corps. Mais à partir d'Adam, l'esprit humain ne pouvait que périr à cause du péché d'Adam. Avant la venue, l'arrivée de la loi, Abraham, Noé sont tous morts, n'est-ce pas? La mort a régné dans le monde parce qu'il y a eu le péché. Mais les gens ne connaissaient pas l'effet du péché. Mais avec l'arrivée de la loi, on a commencé à comprendre l'effet du péché. Mais seulement cela concernait les Israélites. Mais avec la venue de Jésus-Christ, tous les hommes du monde entier ont pu comprendre la raison pour laquelle ils devaient mourir. Alors Jésus-Christ est venu dans ce monde pour défendre les pécheurs, pour que les péchés, la malédiction ne puisse plus nous attaquer, ne puisse plus nous engloutir et nous punir, nous maudire. C'est ce qui est déjà écrit dans la loi et c'est ce que je vous dis maintenant. Donc écoutez bien la parole d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la volonté voulue par Dieu le Père qui a semé une vigne sur cette terre? Donc, il voulait donc porter des raisins, c'est-à-dire des fruits, à travers cet arbre. L'arbre donne des serments avec le temps. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut obtenir des raisins à travers ses serments. Donc, il a réussi d'abord à donner des serments. Mais s'il ne donne pas des fruits, il sera retranché et il sera asséché automatiquement. Alors là, alors pour pouvoir porter des raisins, si des raisins sont utilisés pour donner du vin, ces raisins peuvent être mangés pendant des décennies. C'est pourquoi, à partir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on parle donc des raisins, on parle du vin dans de nombreuses parties. Hein. Pour connaître bien la couleur du vin, hein, qui est rouge, qui est donc comparé, qui peut être comparé donc à notre cœur. C'est-à-dire que la couleur du vin symbolise le cœur de l'homme. C'est pourquoi le vin représente le sang de Dieu, le sang de Jésus, qui sort de son cœur. C'est ainsi que la longévité du vin est très longue. Mais mystérieusement, merveilleusement, la raisin, sont mis dans un grand récipient. Lorsque j'étais en Allemagne, j'ai vu donc des gens qui ont utilisé beaucoup de raisins pour faire du vin. Alors, on voulait donc faire du vin. On avait utilisé des machines, c'est ce que j'ai pensé, mais on n'a pas utilisé des machines pour faire du vin. On a mis de nombreux raisins dans un grand récipient. Ensuite, on y est entré. Ensuite, on a foulé pour faire du vin. C'est ce que se faisait aussi à l'époque de Jésus. Si vous allez à Jérusalem, donc il y a donc quelqu'un qui voulait demander, qui voulait avoir le cadavre de Jésus. Et si on visite sa maison, on peut trouver un endroit où on a foulé les raisins, des raisins. Donc, en fait, on foule des raisins pour faire du vin. Bien sûr, on doit nettoyer les pieds avant d'y entrer. Et ensuite, on voit du vin, peut-être il peut y avoir des saletés dans ce vin parce qu'on a foulé avec les pieds. Mais alors, de toute façon, on peut aussi obtenir du vin en foulant des raisins. Alors j'ai posé la question à des Allemands qui l'ont fait. Est-ce qu'il faut absolument fouler des raisins? Alors, c'est ce que les rois ont dit. Il faut absolument marcher sur les raisins. Donc, ils m'ont répondu, c'est la tradition. Il faut le faire pour que le vin soit bon. Alors, ces vins sont préservés, conservés dans un grenier pendant 10 ans ou pendant 20 ans et ces vins persistent longtemps. Alors, c'est ainsi que les raisins se sacrifient lorsque Jésus a été crucifié, il a dit « J'ai soif ». Alors, on lui a apporté un vin pourri. Parce que le vin ne peut que pourrir si on le laisse en l'état. Donc, Jésus-Christ a goûté à ce vin pourri. Ensuite, il a vomi et il est mort. Et l'apôtre Paul a demandé à Timothée de boire du vin parfois. J'ai vu un écrit où si l'on voit du vin chaque soir, une demi-tasse de vin, on ne tombera jamais malade. C'est ainsi que le vin est très important pour la santé humaine. Donc, pour faire du vin, on marche sur des raisins. Voilà, pour obtenir des raisins, le vigneron qui est notre Dieu le Père sème des vignes sur la terre. Ensuite, le vigneron demande, veut obtenir des raisins. Alors, avec le temps, des raisins sont donnés. Alors, comment on peut faire du vin, en fait, du vin? En fait, on marche sur des raisins. C'est ainsi qu'on les détruit. On les maudit, n'est-ce pas? Alors, cela symbolise la vie de Jésus qui s'est chargé de notre malédiction et de nos péchés. Alors, Jésus nous a dit, je vous envoie comme des évangélistes. Alors, des lions ne peuvent pas manger des os d'animaux, tandis que des loups peuvent se porter même des os d'animaux. Donc, si on est parmi des loups, on ne peut pas survivre. On est vraiment, on peut être foulé et détruit. Alors, qu'est-ce que c'est la Sainte-Cène? Vous vivez cette coupe pour me commémorer. Chaque fois que vous vivez cette coupe, vous pouvez donc annoncer sa vie, sa mort et sa résurrection. Comment Jésus-Christ est mort? Alors, c'est ce que vous devez annoncer. Vous devez annoncer la raison pour laquelle Jésus est mort à votre place. Alors, des raisins ont été foulés, totalement détruits. cassé. Ensuite, on a pu voir du vin. Il faut ainsi que vous compreniez la raison pour laquelle Jésus est mort. Si vous ne connaissez pas cette raison, vous péchez contre Jésus, contre son corps, et on peut être puni à ce moment-là. Donc, il faut que nous connaissions la raison pour laquelle Jésus est mort à notre place. Alors, des raisins ont été foulés, alors détruits ensuite. Ensuite, il le donne du vin. De la même manière, Jésus-Christ a été foulé par des hommes parce qu'il a été maudit, condamné, jugé par la loi à notre place. Il s'est ainsi chargé de nos péchés et alors il a versé son propre sang pour nous sauver. Ici, il y a un point important. Après la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est apparu devant ses disciples. Il leur a dit, « Soyez en paix. » Et ensuite, il leur a demandé de recevoir le Saint-Esprit. « Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, il sera pardonné. Et si vous ne le pardonnez pas, il ne sera pas pardonné. » C'est une parole très difficile à comprendre parce que seul Jésus peut pardonner le péché. Alors, comment nous pouvons pardonner le péché des autres? C'est pourquoi les théologiens ne peuvent pas interpréter cette parole. Parce que seul le sang de Jésus peut racheter le péché. Mais comment nous pouvons, les hommes peuvent être capables de pardonner le péché des autres? C'est pourquoi c'est une parole qui est très difficile à comprendre, à interpréter. Alors, aucun théologien ne peut pas interpréter cette parole-là. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit concernant la communion? Si vous avez vu cette coupe, alors pour quelle raison Jésus-Christ est mort? Et comment il est mort? Et c'est ainsi que vous annoncez la raison pour laquelle il est mort. Si vous... Alors, si vous vivez le sang de Jésus, vous l'annoncez ainsi dans le monde et vous le commémorez. Si on vient à l'église, on écoute des sermons et on arrive à connaître Jésus. Donc, vous devez annoncer l'évangile à vos prochains et vous devez leur dire qu'ils pourront que mourir et périr à cause de leurs péchés et que Jésus-Christ est mort à leur place. Et c'est ce que nous devons annoncer à nos prochains. Et si vous croyez en ceci, vous pouvez être sauvés. C'est ce que nous devons dire à nos prochains. À ce moment-là, nous pouvons recevoir sa grâce et nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Donc, c'est ainsi que l'évangélisation est très importante. En fait, le christianisme et le bouddhisme ne sont pas les mêmes. Et en fait, on peut être consulté par un médecin et alors notre cancer peut être découvert par ce médecin. Et cette nouvelle est très importante, n'est-ce pas? Alors, le message qu'on peut annoncer lors de l'évangélisation revêt une grande importance parce qu'il s'agit de la vie et de la mort. Il faut que nous annoncions la raison pour laquelle Jésus est mort à notre place. Donc, il faut que nous annoncions le fait que nous sommes des pécheurs et que ces péchés ont été pris en charge par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été cassé, foulé, méprisé, maudit à notre place. Il était le Fils de Dieu qui était marché, en fait, qui était foulé par des hommes. Alors, parce qu'il voulait nous sauver, donc il faut que nous recevions sa grâce pour être sauvés. Et c'est ce que nous devons dire à nos prochains. L'apôtre Paul est sorti de la prison. Et alors, des gardiens ont demandé à Paul comment nous pouvons être sauvés. À ce moment-là, Paul leur a dit, croyez en Jésus. À ce moment-là, vous pouvez être sauvés, votre famille aussi. Donc, il faut sortir du péché le plus vite possible pour ne pas se corrompre. Lorsqu'on entre en l'Église, il faut préserver cette foi-là, sinon on ne peut que se corrompre parce qu'on devient trop laxiste et indulgent. Donc, il faut que nous manifestions des témoignages du sang précieux de Jésus-Christ. Il faut manifester la puissance du sang de Jésus. Jésus-Christ est le Fils de l'homme et il est venu ainsi dans ce monde. Alors, il a abandonné sa vie biologique. C'est ainsi qu'il a abandonné sa vie. C'est ainsi qu'il a été abandonné de son Père. C'est pourquoi Jésus a dit sur la croix, « Eli, Eli, lama sabachthani ?» Alors, Père, pourquoi tu m'abandonnes ? Et il a dit aussi que cette coupe passe, que cette coupe de souffrance passe. C'est ainsi que Jésus-Christ a crié à Dieu le Père, mais il a finalement dit « Que ta volonté se fasse, non pas la mienne. » C'est ainsi qu'il a cédé face à son Père. Ensuite, il a abandonné sa vie sur la croix. Et alors ensuite, Jésus a dit, je demeure ainsi dans l'amour de Dieu le Père. Alors j'abandonne ma vie pour observer l'ordre de Dieu le Père. Et je vous donne aussi un ordre qui consiste à abandonner votre vie. C'est ce que je vous commande. Alors, je vous ordonne de vous aimer les uns les autres. C'est le commandement que je vous accorde. L'amour consiste à abandonner sa vie pour son ami. Voilà. Alors, la vie est contenue dans le sang et le sang de Jésus doit être contenu dans nos âmes. Alors, Jésus-Christ a déjà abandonné sa propre vie. Parce que cette vie a été abandonnée de lui et cette vie est entrée en nous. Voilà donc, cela signifie la mort de Jésus, l'abandon de sa vie, n'est-ce pas? Parce que cette vie est entrée en nous, la vie de Jésus donc, se manifeste donc dans les âmes sauvées. Alors cette vie, la vie de Jésus jaillit de nos âmes sauvées parce que son sang est entré en nous. Donc nous sommes maintenant en vie grâce à son sang, grâce à sa vie. Donc il faut que vous viviez mon sang pour avoir la vie. Jean 6, verset 53, c'est ce que Jésus nous a dit. Alors il faut que vous viviez mon sang pour avoir la vie en vous. La vie se trouve dans le sang. Mais bien aimé, alors il faut que nous portions des raisins pour avoir la puissance du sang de Jésus. Si vous n'annoncez pas cette nouvelle, vous vivez à manger vos propres péchés et c'est ce que vous confondez Jésus-Christ. Et vous péchez contre le corps de Jésus. 1 Corinthiens 11, versets 24 à 26. Est-ce que vous avez la puissance du sang de Jésus? Il faut que nous devenions donc des grumeaux de sang de Jésus-Christ pour pouvoir pardonner les péchés des autres. Il faut faire en sorte qu'ils croient Jésus pour être aimés de lui. Il faut être capable de pardonner les péchés des autres en annonçant l'Évangile. Qu'est-ce que l'Église? L'Église et l'endroit où on traite le péché, la réponse est non. Il y a donc la loi, l'arche de loi de Dieu. et sur laquelle il y a eu des ailes. Et sous ces ailes, il y a eu le propitiatoire. Alors, ces ailes couvrent ce propitiatoire. Alors, les chrétiens d'aujourd'hui mènent une vie mauvaise dans ce monde. Elles ne peuvent pas être aimées dans ce monde. Ils sont ainsi maudits, mais ils entrent à l'église. À ce moment-là, ils peuvent changer leur vie maudite parce que l'église couvre leurs fautes, leurs péchés du passé. L'Église ne révèle pas leur passé maudit. L'Église a pour mission de cacher leur péché du passé. Même un brigand peut être protégé à l'Église parce qu'il a été pardonné de son péché, il a été baptisé, donc on ne se souvient plus de son péché. Donc seul à l'Église, on peut être rassuré et nous pouvons être protégés. Et notre passé peut être oublié à l'Église. Nous pouvons ainsi être libres à l'Église, n'est-ce pas? C'est ça la fonction de l'Église. Mais si on rentre sous la loi et si on rentre dans la malédiction, comment on peut entrer à l'Église? En fait, le christianisme est basé sur la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un endroit de condamnation. Et il y a en fait le sang de Jésus à l'Église. Et ainsi, nous avons reçu sa grâce, nous avons obtenu le salut. Et donc, il faut donc condamner les autres, il faut les critiquer. À l'Église, il faut seulement aimer les autres dans le cadre de la grâce de Dieu qui nous a été accordée grâce au sang de Jésus. C'est ainsi que nous devons rassurer les autres et il faut les sauver. Il ne suffit pas de dire aux autres « Je t'aime », mais Dieu, Jésus-Christ nous demande de mourir pour autrui. Ce n'est pas quelqu'un qui nous tue, c'est nous-mêmes qui abandonnons notre vie pour les autres, pour nos amis. Jésus-Christ l'a dit déjà, moi, je abandonne ma propre vie pour observer le commandement de Dieu le Père. Vous aussi, vous devez porter votre propre croix pour me suivre. C'est ainsi que nous devons abandonner notre vie. Ainsi que nous devons suivre le commandement de Jésus en mourant pour nos frères et sœurs. C'est pas la peine de sauver quelqu'un qui est tombé dans les eaux. Il faut sauver son âme, non pas son corps. Levez-vous. Est-ce que le sang de Jésus est devenu un raisin chez vous? Est-ce que vous pouvez faire sortir le sang de Jésus de vous? Examinez-vous vous-même soyez alors ardent lorsque vous priez. Il faut que des raisins soient foulés pour être utiles. Alors Jésus-Christ a été ainsi cassé, maudit, insulté, méprisé pour nous donner la vie. Et le Saint-Esprit en témoigne. L'opération du Saint-Esprit, c'est la puissance du sang de Jésus. Répétez, Seigneur, que mon âme, que mon corps, que ma vie devienne puissance du sang de Jésus. Alors, lorsque les autres vous regardent, il faut qu'ils puissent regarder, voir le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit pour le faire. Et par le Saint-Esprit, nous devons devenir puissance du sang de Jésus. Prions tous ensemble. Devenez donc puissance du sang de Jésus.
여러분 정말 큰 소리 기도하세요. 보혈의 능력인 사람은 남을 정죄하지 않습니다.
Si vous avez la puissance du sang de Jésus, vous ne pouvez pas condamner les autres. La loi ne peut pas fonctionner chez vous parce que vous ne pouvez qu'aimer, vous ne pouvez accorder la grâce et la vie parce que vous avez la puissance du sang de Jésus.